Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui l'histoire d'une conversion, d'une double conversion à Rocamadour dont nous allons parler. Oui, en effet, nous sommes de passage à Lourdes, dans deux passages à Lourdes, mais nous verrons que c'est Rocamadour, c'est là que votre histoire, Frédéric et Christophe Flipeau, c'est là que votre histoire bascule. Est-ce que ce mot est bien choisi? Ça change quand même la vie, la conversion que vous avez vécue.
Tout à fait.
Oui.
Ça, c'est clair. Vraiment, la vie est différente. On voit les gens différemment. On voit le monde différemment. Tout est plus beau. Ça rend plus heureux. On était déjà très heureux, mais alors là, on était gâtés.
Vous avez raconté votre histoire dans La meilleure part, paru aux éditions du Cerf. Et pour commencer, c'est la première fois que vous venez à Lourdes. Racontez-nous comment ce lieu vous impacte, qu'est-ce que vous en retenez, parce que forcément, ça ne laisse pas indemne. Forcément, il y a une première impression qu'on a envie d'entendre. Dites-nous, Frédéric.
Alors oui, c'est vrai que étant très attachée à Rocamadour, Lourdes, bon, j'avoue que j'y venais un peu à reculons en me disant ça va être grand, ça va être bon, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. De toute façon, je pense que c'est bien, faut pas savoir, voilà, faut y venir comme ça. On a la chance d'être sous un soleil radieux toute cette semaine et eh bien on découvre quelque chose de complètement différent et complètement incomparable à Rocamadour.
Ce que vous aimez à Rocamadour, c'est que c'est intime, c'est un
Voilà, la
sanctuaire
proximité, voilà,
proche.
je me sens chez Marie, voilà. Et je disais ça hier à quelqu'un qui m'a dit, mais t'es pas chez Marie ici? Je dis, si, je suis chez Marie, mais j'avais un peu de mal jusqu'à ce matin, je dois le reconnaître, à être dans cette intimité avec elle, voilà. Parce que je retrouvais pas de moment et d'endroit peut-être où je pouvais être plus en silence et seule avec Marie, voilà. C'est des goûts de luxe, hein.
Jusqu'à ce matin, pourquoi?
Ah, parce que ce matin, j'ai fait la queue pour aller à la piscine
Se baigner dans l'eau de la source qui coule
se baigner dans l'eau de la
au creux du
source.
rocher.
Voilà. Et c'est pareil, je ne m'attendais à rien tout en espérant beaucoup de choses. Je suis arrivée, je me suis laissée porter. La dame qui m'a accueillie m'a dit, c'est votre première fois. J'ai dit oui, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et quand je suis rentrée vraiment devant ce bassin, mes yeux étaient attirés vers cette eau. La dame m'a dit, regardez, la Vierge est là. Et j'ai levé les yeux, il y avait cette petite statue de la Vierge. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de me dire, bah, ça y est, voilà, tu m'attendais, tu étais là, tu étais cachée. Et c'était toi que je. Enfin, et moi, je me disais, c'était vraiment Marie que je venais chercher, je l'ai trouvée là, quoi. Elle m'a. Voilà, ces dames qui m'ont permis d'avoir un peu de temps pour pouvoir intérioriser ce que j'avais à lui demander et puis lui parler. C'était vraiment très fort pour moi. Voilà, je l'ai
Oui,
trouvé.
on sent de l'émotion dans votre
Oui,
voix.
je l'ai vraiment trouvé.
Oui. Vous, Christophe?
Alors moi, pour ma part, quand je suis venu, quand on est arrivé, j'avais une vision assez négative. J'avais l'image des marchands du temple, des magasins partout, une armée de bonhommes partout, des 25 000 personnes. Je me suis dit, ça va vraiment nous changer de Rocamadour. Et puis en plus, Rocamadour, j'en suis un peu fier, c'est idiot, mais j'en suis fier de voir ce qui a été fait. C'est quand même un culte qui a été mis en place au 5e siècle après Jésus-Christ, il y a des cryptes romaines, il y a une crypte romaine du 12e siècle qui est absolument magnifique. C'est un lieu plein d'intimité. On est vraiment très proche de Marie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans cette foule? Et en fait, j'ai été frappé par deux aspects. Le premier, c'est que on sent une ferveur. Quand on va à la messe le matin de 9 h, si vous êtes au milieu de la foule, quand tout le monde chante Notre Père, il y a une ferveur, il y a un cri vers le ciel qui est très beau. Et j'ai, ça, c'est pour la partie, pour les 25 000. Et au niveau de l'intimité, moi aussi, ce matin, je suis allé dans le bassin aussi, et j'étais frappé par l'humanité que j'y ai vue, parce que j'ai dû attendre 2 3 heures. Et en fait, en attendant, il y avait donc devant moi, je voyais des bénévoles debout qui accueillaient les handicapés, toujours avec le sourire gentillesse. Il y avait des cas difficiles, il y a eu quelques gens qui étaient très lourdement handicapés. Et j'ai vu des gens très patients, et je me suis dit, en faisant cette queue, c'est plein d'humanité, je ne dois pas me plaindre. Moi, je fais la queue pendant 2 heures, et devant moi, j'ai des gens qui seront handicapés toute leur vie. Et puis je vois des gens qui sont debout, qui sourcillent pas, qui sont toujours souriants. Je me suis vraiment, c'est une leçon d'humanité qui m'a bouleversé. Et donc du coup, quand je suis rentré dans le bassin, moi aussi pareil, j'étais très ému parce que j'ai dit merci à tout le monde, tellement j'étais heureux d'être là.
Vous habitez Lille, vous avez vécu manifestement quelque chose de très fort à Rocamadour que vous allez nous raconter, et vous voici à Lourdes pour quelques jours au sein du pèlerinage du Rosaire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avant l'année 2012, cette année où je disais que tout bascule pour vous, au fond, tout allait bien dans vos vies, en apparence en tout cas, les moyens, des bons boulots, 4 enfants ensemble. Vous avez un super job, je crois, vous, Christophe. Enfin, vous entrez dans le détail, vous travaillez une partie en Angleterre pour un grand groupe, vous êtes dans l'informatique, dans la stratégie informatique. Et puis vous êtes artisan d'art, vous peignez sur de la porcelaine. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que, au fond, il y avait ce manque dans vos vies? Qu'est-ce qui manquait? Oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Alors, je peux peut-être essayer de répondre en premier. Je pense que donc, j'étais franc-maçon, donc j'avais une vie spirituelle très développée. Donc, pour moi, tout allait bien. J'étais très heureux. Je crois que globalement, j'étais très heureux. Pour ma femme, il ne faut pas penser que c'était le bagne. Mais en fait, quand on fait un couple et qu'on a des enfants jeunes, qu'on les fait grandir, on n'a pas tellement le temps de réfléchir au sens de tout ça. On exécute un peu une famille. On est content de voir, d'élever les enfants et de les voir partir et réussir leur vie. Donc, on était dans ce schéma-là. Mais finalement, c'est quoi un couple? C'est la construction d'un édifice spirituel. Et ce qui se passait, en fait, moi, je prenais mon pied, si vous me passez l'expression, dans la maçonnerie, dans la symbolique maçonnique, et je laissais ma femme de côté. Et en fait, dans ce qu'on a découvert progressivement à Rocamadou, à travers une aventure qu'on peut un peu vous raconter, c'est qu'en effet, je me suis rendu compte que je laissais complètement ma femme sur l'autre côté. Et que ça ne pouvait pas durer. Parce que finalement, tous les couples qui dépassent la cinquantaine, la question c'est, bon, qu'est-ce que fait-on? Et je crois que ce que nous offre la foi chrétienne, c'est justement de continuer à être fécond à travers des témoignages, à travers des conseils, des rencontres et des partages. Et donc ça, c'est vraiment ça qu'on a découvert et qui a rendu notre vie, comme dit Saint Jean, je vous ai apporté la vie en abondance, nous dit le Christ, hein. Et c'est exactement ça, le bonheur en abondance. Et c'est ça que ça nous a apporté la foi chrétienne.
Frédéric, vous m'avez dit avant de commencer, rien ne devait changer avant cette conversion. Pourtant, il y avait sans doute un manque,
Oui, ben en
puisque tout a
fait,
changé.
oui. En fait, je pense qu'on n'en avait pas pris conscience. On était vraiment dans un, enfin, voilà, dans un confort, on va dire peut-être, parce que bon, pour moi, la foi a toujours été présente. Je dois reconnaître que je n'ai jamais douté depuis toute petite. Voilà, c'était quelque chose qui m'accompagnait. Voilà. Mais pourtant, j'ai le sentiment que tout a changé au sens où ce qu'on a découvert dans cette conversion, même si on met au-delà le fait que Christophe ait quitté la maçonnerie, si vraiment on s'intéresse qu'à la conversion, puisque le fait qu'il ait quitté la maçonnerie a été une conséquence de notre conversion. Je pense qu'il faut partir vraiment de ça. Et je prends souvent cette image en me disant que j'avais cette foi, comme on peut par exemple parler et expliquer à quelqu'un comment est la mer, ce qu'est la mer, sans qu'il l'ait vue. La mer, elle est bleue ou elle est grise, et on va lui expliquer que c'est une grande étendue d'eau. Il peut s'en faire une représentation, même on peut lui montrer. On peut même, je pense, lui montrer des films et puis voilà, le voir. Le jour où vous l'emmenez réellement à la mer et vous lui mettez les pieds dans le sable et où l'eau va couler sur ses pieds, il va pouvoir se baigner, se jeter dans l'eau, je pense qu'il y a enfin, il y a autre chose qui. Ben, en fait, dans la foi, c'est ça. Je pense que cette conversion, elle est venue comme ça. J'avais cette foi et en fait, je pense que tout ce que je vivais, je n'en avais pas le mode d'emploi. Notre conversion a fait que elle m'a nourri et puis c'est cette eau qui est entrée en moi, peut-être, si on veut reprendre cette image, parce que c'est quand même l'eau, c'est une image surtout à Lourdes, importante, qui est vraiment, qui nous a remplis. Voilà. C'est ça qui a changé réellement en nous.
Que se passe-t-il en 2012? C'est l'année
Oui.
où vous allez à Rocamadour.
Oui. Alors en fait, ce qui a provoqué ça, c'est au départ, j'avais une collègue qui avait 30 ans, c'était une belle femme, en plus aguichante, la tentatrice. Et en fait, on était très souvent ensemble en déplacement en Angleterre, puisqu'elle avait un métier similaire au mien. Et en fait, je voyais, elle me racontait un peu les affres de sa vie, ça ressemblait à rien. C'était carpe diem, c'était au jour le jour. Et elle changeait pas d'homme tous les jours, mais enfin, c'était pas vraiment stable. Et elle n'était pas très heureuse finalement. Et donc, du coup, on discutait beaucoup philosophie le soir. Parfois même, on a lu des trucs de la Bible. Même, je lisais la Bible, mais pas en tant que chrétien, mais plutôt en tant que lieu de connaissance. Et en fait, on a été très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, quand ils se sont mariés, finalement, j'ai été témoin de son mariage, donc c'était une preuve d'une grande confiance. Et en fait, je lui posais vraiment la question du sens de sa vie. Et quand elle est partie en vacances un peu plus tard, ça durait 2 ans ce chemin. C'est vraiment un chemin d'apprentissage, principalement pour elle, de voir où elle allait. D'ailleurs, elle n'était pas très heureuse parce qu'elle voulait à un moment donné, elle s'est dit, je veux adopter un enfant. Je voudrais qu'un homme me fasse un enfant et que je reste seule avec lui. Donc ça traduisait bien un certain malaise. Et puis avec son homme du moment, ils partent tous les deux en vacances, ils font le tour de France, ils vont des huîtres de Bretagne, pour profiter un peu des beautés de la région. Et ils vont à Rocamadour, mais ils ne savent même pas que c'est un sanctuaire. Ils y vont parce qu'il y a un spectacle d'aigle, hein, il se trouve que c'est sur une falaise, Rocamadour, et au-dessus, il y a un spectacle d'aigle qui sont allés voir. Donc ils vont, le soir ils vont au restaurant. Et quand ils reprennent la voiture tard le soir, ils sont dans la vallée dite ténébreuse, justement, parce qu'elle est dans l'obscurité, et puis ils voient la lumière au-dessus du sanctuaire, et ils pensent que c'est un château. Et donc, en fait, dans les circonstances amusantes, ils finissent par aller visiter ce château, et quand ils arrivent, il y a un prêtre qui est là, qui est le père Renan, qui était le recteur des lieux, et il fait une visite le soir extraordinaire. Elle est très drôle, spirituelle et spirituelle, parce qu'il enseigne aussi une dimension spirituelle, mais elle est très drôle. Et puis, il est donc en prêtre. Et elle, quand elle le voit, elle pense que c'est un acteur déguisé en curé. Elle se dit quand même, il est gonflé, il s'est vraiment bien déguisé. Et puis, il commence à faire son cinéma. Enfin, c'est vraiment un sketch, son show. Il fait la première chapelle, la deuxième, la troisième. Et à la troisième chapelle, elle se dit, c'est quand même curieux ce château, il n'y a que des chapelles. C'est quand même bizarre. Et ils continuent quand même les visites. Et ils arrivent à la pièce maîtresse, qui est une basilique, la basilique Saint-Sauveur. Ils rentrent dans la basilique. Et là, tout le monde s'installe. Et puis, le prêtre va continuer son scénario. Et en fait, il dit, c'est amusant, c'est avant qu'il commence à parler, paf, panne de courant. Ça ne s'invente pas, plus de courant, tout le monde est dans l'obscurité totale, parce que ça se passe la nuit. C'était le soir, il y a à peu près 11 heures. Donc vous imaginez, vous êtes dans une église, c'est l'obscurité totale, il y a quand même à travers les lampadaires extérieurs, vous voyez le Christ à travers un vitrail qui tient un agneau sur les épaules, hein, qui ramène la brebis égarée. Et ils sont là tous les deux et ils attendent. Et puis tous les deux, surtout elle commence par se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au milieu de cette église? C'est quoi le sens de ma vie? Et elle voit le Christ devant elle. Et ça lui a permis de s'ouvrir le cœur. Et à ce moment-là, ça lui est tombé dessus. Elle a eu une conversion totale. Elle a eu un cœur à cœur avec le Christ, extraordinaire, qui est difficile à décrire, hein, un cœur à cœur. Elle sent comme un battement qui l'englobe complètement. Et ça a littéralement bouleversé sa vie. Et c'est comme ça qu'a commencé notre histoire.
Voilà. Donc, quand je vous pose la question comment s'est vécue votre conversion, vous me racontez celle de quelqu'un d'autre.
Oui, et qui a déclenché tout. Vous savez que c'est contagieux. Il faut faire attention quand on voit des chrétiens. Bon. C'est contagieux.
Alors, ce que je vous suggère, c'est que juste après la pause, Frédéric et Christophe, vous me racontiez vraiment, vous, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que quel a été l'impact de la conversion de cette personne ou de ces personnes sur vous et puis vous-même, comment vous avez fait ce chemin. À tout de suite. Frédéric et Christophe Flippot, aujourd'hui sont nos invités. Christophe, on vous doit cet ouvrage « La meilleure part » paru aux éditions du Cerf, où vous avez raconté l'histoire de votre conversion à tous les deux. Et par ailleurs, un autre ouvrage, « L'adieu aux frères », qui là raconte comment vous avez, par voie de conséquence, j'ai envie de dire, quitté la franc-maçonnerie.
Voilà, c'est mon regard sur la franc-maçonnerie.
C'est votre regard sur la franc-maçonnerie. Juste avant la pause, je vous ai posé la question, votre conversion en 2012, racontez-moi, racontez-nous. Et vous avez raconté la conversion de quelqu'un d'autre.
On se dit, bon. Oui, mais ça, c'était le déclenchement, hein, attention.
Ah. Alors pour faire court, moi je peux peut-être reprendre.
Allez-y, Frédéric.
En fait, je pense, si on veut résumer très rapidement, je pense que, parce qu'il y a Virginie et Cyril, c'est vrai, qui ont vécu cette conversion et que ça nous a vraiment interrogés, mais je pense que ce sont les chrétiens que nous avons rencontrés à Rocamadour, par voie de fait, parce que nous y sommes allés s'intéressant. En fait, quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et en fait, comme on aimait et qu'on s'est intéressé à cette histoire, nous y sommes allés, nous avons rencontré des tas de chrétiens, des jeunes séminaristes qui étaient là, qui avaient l'âge de nos enfants, qui s'engageaient au séminaire. Et ça nous a vraiment interrogés et on est rentrés chez nous en se disant oh, « ça existe encore ». Et autre chose qui nous a aussi convertis, je pense, c'est aussi la beauté de voir la beauté des rites et de retrouver un sens à la messe. On sortait de la messe et on a repris du coup cette habitude d'aller à la messe très régulièrement et en se disant « mais la messe a quelque chose à nous dire et on ressort de la messe en étant nourri ». Je pense que ça, c'était aussi quelque chose qui... Voilà, parce qu'en fait, notre chemin, notre conversion n'a pas été comme une douche. Parfois, on a des gens qui, du jour au lendemain, changent complètement. Nous, ça a été un petit chemin bien tracé, avec des petits cailloux à droite, à gauche. Et la Vierge nous a tirés par la main pour nous mener jusqu'à Lourdes.
Mais qu'est-ce que ça a changé vraiment dans vos vies? Alors, vous nous disiez, vous vivez la messe de façon très différente de ce que vous pouviez vivre avant.
Oui.
Mais vos vies, c'est votre regard sur les autres, sur le monde. Qu'est-ce qui a changé?
Moi, je crois qu'aimer, c'est donner de la valeur à l'autre. Aimer quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Et je pense que quand on est chrétien, on sait que Dieu nous aime. Dieu, ça veut dire qu'on comprend que Dieu donne de la valeur à tout le monde. Et comme il aime infiniment, il donne une valeur infinie à chacun. Et donc, du coup, ça nous empêche de juger, finalement. On n'a plus le jugement. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui émande, on a souvent tendance à se dire... Enfin, moi, j'avais souvent tendance à me dire, il en est là parce que c'est un alcoolique. Enfin, je lui donnais un bon petit procès tout seul dans ma tête pour rien lui donner. Et aujourd'hui, je me dis, en tant que chrétien, c'est pas à moi de juger tout ça. Il est aimé lui aussi comme nous. Il a énormément de valeur aux yeux de Dieu. Et donc, il mérite notre attention. Et donc, c'est ça qui a changé. C'est vraiment changé notre regard sur les hommes, hein, finalement.
Oui, et puis je crois que ce qui nous a aidé à changer, ce qui nous aide toujours, en fait, c'est que du coup, on est retourné à la messe, on s'est intéressé aux lectures et voilà, et à l'évangile avec un autre regard, je pense aussi. Et on a eu ce besoin d'être nourri, donc on a rencontré des chrétiens et puis on avait cet appétit, en fait, vraiment de retrouver un sens aussi à l'évangile et à ce qu'on vivait à la messe aussi, puisque après tout, c'est vrai que c'était ça. On s'est rapproché des dominicains parce que forcément, on a rencontré des gens qui nous ont emmenés. Et pour tout vous dire, on est prêt bientôt à s'engager. Ça fait 3 ans et demi qu'on participe, qu'on est entré dans une fraternité dominicaine, de laïcs dominicains. Et on envisage de faire de nous engager dans les premiers vœux des 3 ans en fraternité de laïcs dominicains. Voilà. Christophe s'occupe aujourd'hui du site internet des fraternités laïques. Voilà.
Vous portiez assez facilement un jugement sur ceux qui, avant, vivaient vraiment pleinement leur foi et en témoignaient avec force, avec enthousiasme. Vous les trouviez un peu perchés?
Oui, on les trouvait, en effet, on disait qu'ils sont vachement atteints. On disait.
Ah oui, vous disiez
et coincés,
ça.
Et coincés aussi.
Atteints.
Ouais. En fait, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais on a découvert ici quelque chose qui est très, très positif par rapport à Roca. C'est qu'il y a 25 000 personnes et il y a 25 000 chrétiens. Et ça se voit tout de suite. Les gens sont souriants. Dans l'ascenseur, on échange la parole très facilement. On est en pleine confiance. On laisse son sac par terre. On est vraiment dans une communauté de confiance. Et ça, c'est exceptionnel. Alors qu'à Ocamadour, vous avez tellement de touristes. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez, il y a 1 500 000 visiteurs, mais vous avez 20 000 pèlerins. Ça n'a rien à voir. Tandis qu'ici, vraiment, on sent cette fraternité. On peut demander n'importe quoi à n'importe qui. C'est vraiment l'impression que ça nous donne.
Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui vous a coupé d'un certain nombre de relations? Votre vie a aussi changé de ce point de vue? Parce que vous témoignez assez aisément, avec l'enthousiasme qui vous faisait rire hein, chez les autres.
Oui, certes.
Oui. Et vous voici maintenant témoin. Est-ce que vous avez senti qu'autour de vous, les relations ont peut-être changé?
Alors déjà,
aussi.
Chez nos amis, c'est bon, parce que nos amis donc, ne savaient pas que Christophe était franc-maçon, par exemple. Dans la famille non plus.
Ah.
Voilà. Donc pendant 21 ans, c'est quelque chose qui était... caché, voilà. Donc, avec toute notre histoire, donc on allait quand même très souvent à Rocamadour, donc les amis le voyaient, donc bon, et puis il y a eu le livre qui allait sortir, et on s'est dit, on peut pas, enfin, il faut qu'on prévienne les copains avant que le livre sorte quand même.
Vous donc, parliez du livre L'Adieu aux Frères.
La meilleure part, non, la meilleure part, le premier.
L'histoire, voilà. La conversion.
Et donc, on a fait une série de dîners avec nos amis proches,
ah oui.
Voilà, pour leur dire, bon, après l'apéro, voilà, bah, en fait, on a quand même un truc à vous dire, il y a un livre qui va sortir, et puis bon, voilà, et puis on a lâché le morceau, on a dit, ça n'a pas toujours été facile, franchement.
On a eu beaucoup de nouveaux amis, moi je pense, on a
aussi,
vraiment
oui.
Beaucoup de nouveaux amis ouais. dans les chrétiens, et on fait des... C'est vrai qu'on a une relation de confiance que j'ai retrouvée nulle part ailleurs, même pas en maçonnerie, donc c'est vraiment trouvé une très bonne relation. Et on a donc plein de nouveaux amis, et puis si on est devenu, par exemple, laïc dominicain, c'est parce que justement, par le croisement des personnes, que ça s'est fait.
Et notre histoire a suscité aussi chez les anciens amis, parce que quand même, voilà, beaucoup de questions. Donc en fait, je pense qu'ils ont été rassurés, parce qu'en fait, ça a mis des mots sur quelque chose qui, enfin là, ils se demandaient dans quoi on partait, voilà, et sans doute qu'eux aussi avaient, voilà, des images de, voilà. Et donc, ça a mis des mots, ça a suscité des questions, bon, j'espère qu'on a fait envie, surtout, parce que moi, je me dis que c'est pas à nous de convertir, mais j'espère que, enfin, en tant que convertie et en tant que chrétienne, moi, ce que je veux surtout faire, c'est faire envie, quoi. C'est, je me dis, si les gens ont envie d'être comme nous, si je donne une image d'une catholique qui soit... qui est nourrie par ça et qui est heureuse de le vivre.
Notre joie de chrétien en couple. Ça, on essaye de montrer par l'exemple en tant que faire se peut. Bien entendu, on ne dit pas qu'on est parfait sur tout, mais je pense que c'est l'exemple qui fait qu'on donne envie. Et je crois que notre couple, maintenant, où on construit ensemble un édifice spirituel à travers la foi chrétienne, je crois que beaucoup de gens nous envient, beaucoup de notre entourage nous envient.
D'ailleurs, à ce moment-là, le livre de Jean-Guilherme Xéry, là, qui est ici en ce moment... que j'ai malheureusement pas réussi à voir parce qu'il y a trop de monde. Il avait écrit un livre, donc à peu près au moment où on a eu notre conversion, sur à quoi sert un chrétien, et on était à 100 000% d'accord. Donc c'était tout à fait ça.
Frédéric, avez-vous beaucoup prié pour Christophe pour qu'il quitte la franc-maçonnerie ?
Oui.
Oui. Mais ça a duré 21 ans.
Non, alors à ce moment-là, je ne priais pas pour lui. Pendant les 21 ans, vraiment, je me disais, je lui avais déjà demandé de quitter pour d'autres raisons, parce que je voyais qu'il y avait des histoires. Enfin bon, je trouvais ça, voilà, je ne voyais plus trop le sens. Mais par contre, je n'osais pas, en fait. Et ça a été vraiment un gros problème pour moi au moment où je lui ai demandé de quitter la maçonnerie. Parce qu'en fait, quand je lui ai demandé de quitter, il n'a pas compris. Enfin, il l'a fait pour moi, mais... Et je me souviens très bien avoir dit au père Ronan, mais mon Dieu, mais si jamais il quitte, il va falloir le nourrir, parce que je voyais qu'en fait la franc-maçonnerie lui répondait à une quête intellectuelle dont il avait besoin, voilà.
Vous avez franchi tous les échelons, Christophe, de la franc-maçonnerie.
J'étais passionné pendant 20 ans. J'ai quitté la dernière tenue, je l'ai faite. J'allais justement initier quelqu'un, enfin proposer un nouveau candidat, qui est d'ailleurs dans le livre le troisième couple qui a été converti dans notre histoire. Mmh. Et en fait, au lieu de faire cette initiation pour ce nouveau candidat, eh bien, je me suis présenté pour remettre ma démission. Je l'ai fait en pleurs. Parce que j'étais très triste, mais quand Frédéric me l'a demandé, ça s'est passé dans des circonstances assez...
Le dimanche, et tu as quitté violentes. Le jeudi.
Ouais. Mmh. Et en fait, elle m'a donné un coup de fil, j'étais en voiture, et elle pleure, elle tombe en larmes, elle pleure, et elle me demande de démissionner, comme ça. Et moi, je ne comprends pas du tout, parce que bon, les circonstances ont fait qu'elle était arrogante. Moi, j'étais resté à Lille, parce que je partais en Angleterre le lendemain. Mais immédiatement, j'ai vu ma défaillance de mari. Parce que si quand une femme vous demande quelque chose en pleurant, en tant que mari, ça veut dire que vous ne l'avez pas écouté et vous avez raté quelque chose d'important. Et donc, j'ai tout de suite compris que je devais quitter. Par contre, je l'ai fait dans les 4 jours qui suivaient, quoi. Mais sur le coup, je ne l'ai même pas dit tout de suite, parce que ça a été vraiment... J'ai pris ça comme une défaillance, en fait.
Et dans le livre « L'adieu aux frères » que vous avez écrit, vous ne diabolisez pas la franc-maçonnerie.
Oui, moi je pense que pour pouvoir parler de la maçonnerie, il faut déjà bien la structurer. Vous avez la maçonnerie athée et la maçonnerie déiste, hein, qui est la maçonnerie mondiale, hein, celle qui croit au grand architecte de l'univers. Et en fait, c'est une maçonnerie qui est remplie, c'est un immense syncrétisme. En fait, vous avez les rites, hein, donc l'enseignement est transmis sous forme de rites, hein, donc un peu comme le baptême, si vous voulez, mais c'est d'autres rites qui racontent d'autres histoires. Et ces histoires sont pétries de Bible, en effet, mais aussi de traditions alchimiques, templières, druidiques, grecques, égyptiennes, tout ce qu'on veut. Et donc, de tout ça, on va faire quelque chose d'égal. Donc, la résurrection du Christ ou celle d'Osiris, c'est pareil. Finalement, d'Isis, c'est pareil. Parce qu'en fait, il y a un rite, c'est un simulacre de résurrection, donc ça va quand même très loin. En tant que chrétien, vivre ça, c'est quand même très curieux. Et l'alchimie, c'est l'exaltation de l'homme par lui-même. Donc, même, il y en a beaucoup, même des gens d'église qui pensent qu'il y a une compatibilité, mais quand on regarde la foi chrétienne, le lâcher-prise qui se fait à travers les Vierges ici à Lourdes, mais ce lâcher-prise pour le Seigneur, c'est la maçonnerie nous donne tous les jours le contraire. À chaque ligne du rituel, c'est le contraire qu'on nous raconte. Donc moi, je ne comprends pas ces prêtres qui disent « oui, tout va bien », parce que, en fait, le rite, c'est trompeur, puisque le rite s'appuie sur les textes bibliques. Donc on a l'impression, c'est pas parce que je mets en scène Salomon que tout d'un coup, ce que je dis est évangile ou biblique. Et par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Donc on prend les mêmes personnages, c'est exactement comme un évangile apocryphe. Un évangile apocryphe, c'est écrit 2 siècles après, et c'est une histoire qu'on a inventée, puis on a mis quoi dedans ? On a mis les personnages de l'évangile. Donc c'est un peu pareil, et donc c'est vraiment, ça corrompt la pensée, ça corrompt la vision qu'on a de la religion chrétienne, qui est, si le Christ dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », qu'est-ce que je vais faire de réalité alchimique? Donc la question que je pose aux maçons à travers ce livre, c'est « Que cherches-tu ? Que cherches-tu, maçon ?» Et pour l'anecdote, c'est la première phrase que dit Jésus aux apôtres dans Saint Jean. Il le dit aux deux apôtres « Que cherchez-vous ? » Et c'est la vraie question de l'homme. Je crois que c'est ça, on est chrétien parce que nous sommes en recherche.
Donc merci à Frédéric d'avoir passé ce coup de fil ce jour-là pour dire il faut non, quitter la franc-maçonnerie, la maçonnerie.
Je m'avais inspiré, bien préparé le terrain.
Oui, on avait bien préparé le terrain.
Bon, merci pour votre témoignage. On vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes. Je rappelle le titre des deux ouvrages auxquels nous avons fait allusion à plusieurs reprises. La meilleure part et L'adieu aux frères. Ces deux livres sont parus aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux.
Merci Mathias.
Merci Mathias.